que ce soit à Gaza, au Soudan, en Indonésie, au Vietnam, en Thaïlande, en Malaisie, aux Philippines, au Sri Lanka, des millions d'enfants ont été confrontés à des violences et aux conséquences du changement climatique et de l'escalade des conflits armés. Il ne faut pas oublier, nous dit Adeline Hazan, présidente d'UNICEF France, qu'au milieu de ces fractures, les enfants doivent rester des enfants, à protéger, à soigner, à éduquer, à écouter, quel que soit leur pays, quelle que soit leur histoire. Et donc, je vais revenir maintenant un petit peu plus aujourd'hui sur les droits de l'enfant, et notamment en France. Donc, UNICEF France a lancé l'Observatoire des droits de l'enfant pour centraliser sur une plateforme les données fiables relatives à 12 thématiques. L'éducation, la santé, la protection, le climat, la pauvreté, la démographie, la santé mentale, le numérique, etc. 76 indicateurs clés pour dresser une photographie inédite et consolidée de la situation des enfants en France. Donc je vous invite à aller voir sur le site UNICEF, Action humanitaire, Observatoire des droits des enfants. C'est très détaillé, je voulais en imprimer des pages, et puis en fait le rapport il fait quand même 52 pages hein, d'UNICEF France. Donc il y a quand même des choses avec des chiffres qui sont très très intéressants. Dire quand même que 14 millions d'enfants en France subissent la pollution, la crise du logement et sont précarités sans que leurs droits ne soient suffisamment pris en compte par les mairies. Un collectif d'élus propose la création d'une délégation municipale aux droits des enfants pour mieux prévenir les violences périscolaires, lutter contre la pauvreté infantile, améliorer l'accès à la santé et organiser la participation des enfants aux décisions locales. Donc ça, c'est Parlons politique, politique locale, municipale 2026, créer une délégation municipale dédiée aux droits des enfants pour prévenir les violences, la pauvreté et les risques sanitaires. Voilà. Donc vous pouvez essayer de rechercher aussi sur Internet. Alors, toujours en France, parce que moi je ne lis pas tout, il y a aussi un article, alors là c'est par rapport, c'est un article qui est paru dans Le Monde sur l'imprescriptibilité qui est demandée par la quasi-totalité des victimes d'infractions sexuelles et surtout d'inceste. Donc c'est la nécessité de la prescription de l'action publique qui ne fait plus consensus et qui doit être interrogée pour tous les crimes, estime Marie-Pierre Porchy, magistrate honoraire dans une tribune du Monde. Voilà. Et je vous invite aussi à regarder un documentaire, Violence sexuelle à l'école, silence dans les rangs. Lorsqu'une prof découvre qu'un de ses collègues abuse sexuellement de ses élèves, elle alerte sa hiérarchie. Malgré des démarches répétées, elle attendra près de 3 ans avant que l'éducation nationale ne réagisse. C'est un scandale qui est loin d'être exceptionnel. Donc là, c'est France 3, France 3 en La France en vrai, violence sexuelle à l'école, silence dans les rangs. Donc c'est à regarder sur les replays de France,
France Télévisions.
France TV. Et aussi quelque chose d'autre qui existe en France, donc c'est le maillot pour alerter. L'Enfant Bleu lance un dispositif innovant contre les violences avec un QR code intégré au maillot. Les enfants victimes ou témoins de violences peuvent le scanner pour accéder à la plateforme sécurisée de l'Enfant Bleu où ils trouveront toutes les ressources nécessaires pour parler à une psychologue ou à un juriste de l'association et recevoir un accompagnement adapté. Donc là, c'est pareil, vous tapez sur Internet, maillot pour alerter, l'enfant bleu, et vous trouverez tout ce qui est autour de la mise en place de cette action. Ensuite, le Défenseur des droits publie une étude consacrée à la prise en charge des jeunes majeurs sortant de l'aide sociale à l'enfance. Elle met en lumière des inégalités importantes dans les modalités d'accompagnement ainsi que des disparités territoriales. Vous savez que les mineurs non accompagnés qui sont reconnus mineurs en France sont protégés par l'ASE jusqu'à 18 ans et après leurs 18 ans, ils peuvent avoir un contrat jeune majeur jusqu'à leurs 21 ans. Mais tous ces jeunes n'en bénéficient pas. Certains, comme ceux qu'on laisse traîner là, à l'hôtel Formule 1 à Évreux, sans être scolarisés, sans travail, sans voilà, quand ils vont avoir 18 ans, quelques-uns auront un contrat jeune majeur, mais pour la majorité des autres, ils se retrouvent sans rien, plus d'hébergement. Et pour l'obtention du titre des séjours, si les démarches n'ont pas été faites avant par les gens qui sont censés les protéger, eh bien, ils peuvent aussi se retrouver sans titre de séjour. C'est pas évident. Ils l'auront pas forcément à 18 ans. Donc, il y a des disparités dans l'accompagnement avec des conséquences durables en matière de logement, de santé et d'insertion sociale et professionnelle. Et la fin de cette prise en charge expose de nombreux jeunes à des ruptures brutales dans leur accompagnement. Donc ça, c'est défenseur des droits, jeunes majeurs sortant de l'aide sociale à l'enfance, une protection insuffisante et des inégalités. Et il y avait aussi, toujours dans les rapports de la commission enfants d'Amnesty, le lien avec le rapport 2025 de l'UNICEF qui traite de la pauvreté infantile et qui met en garde la crise climatique. Donc les climats et les coupes budgétaires mondiales risquent de faire sombrer davantage d'enfants dans la pauvreté au niveau mondial. Dans les pays à faible revenu, plus de 412 millions de filles et de garçons survivent avec moins de 3 dollars par jour. Cependant, comme le révèle le premier rapport sur la situation de l'enfance dans le monde, de l'UNICEF, la pauvreté infantile ne se limite pas aux régions les plus pauvres du monde. Elle touche également les pays avec un revenu intermédiaire et élevé. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi la dette des adultes envers l'enfance. Il y a un rapport aussi... C'est un petit papy qui se balade tout seul de l'UNICEF. C'est un poste de l'UNICEF France. Donc le 19 janvier dernier, le Comité des droits de l'enfant a condamné la France pour ses pratiques en matière de prise en charge et de détermination toujours de l'âge des mineurs non accompagnés, ces jeunes étrangers qui arrivent en France mineurs. Il s'agit de la troisième condamnation après celle de janvier 2024 et de mai 2025, visant les mêmes défaillances, malgré les alertes répétées des associations, les garanties prévues par la Convention internationale des droits de l'enfant, la CIDAE, et elles ne sont toujours pas respectées par la France. Donc il y a une remise en cause injustifiée de documents d'état civil sans vérification auprès des autorités compétentes, la persistance de l'usage des examens médicaux d'âge osseux qui sont obsolètes et qui ne reposent sur rien, l'évaluation de minorités non conformes à l'intérêt supérieur de l'enfant, l'absence de représentation légale dès le début de la procédure, le caractère non suspensif des recours conduisant de nombreux mineurs à vivre plusieurs mois à la rue. Chaque enfant en danger, où il se trouve, doit pouvoir bénéficier de la protection à laquelle il a le droit. Cette nouvelle condamnation doit agir comme un signal d'alerte clair. La France doit prendre ses responsabilités et engager une réforme ambitieuse et conforme au droit international. Et le dernier petit article de la commission des droits, c'était par rapport aussi dans des droits de l'enfant pour Amnesty, c'était quand même rappeler aussi, alors on a beaucoup parlé de Gaza dans les dernières émissions qu'on avait, de parler aussi de l'Ukraine. Et sous les bombes et le froid, les enfants affrontent l'hiver le plus dur de la guerre, sans chauffage, par une température de moins 18 degrés Celsius, la vie à la maison, dans un appartement situé dans un immeuble de haute hauteur, se résume à se mettre à l'abri des attaques incessantes et à survivre à des températures extrêmes. Donc ça, c'est un article encore de l'UNICEF sur l'Ukraine, sous les bombes et le froid extrême. Voilà. Et je pense que Edith voulait nous en reparler un petit peu aussi.
Voilà, il y a un article qui vient paraître sur le site d'Amnesty, donc je pense que peut-être la prochaine radio, mais tu as résumé les conditions de vie des Ukrainiens et leurs difficultés, pour lesquelles aussi ça ne fait plus tellement l'actualité, Didier, on dirait.
Non,
on en parle comme... voilà.
Aussi, mais bon, effectivement, c'est devenu, entre guillemets, une habitude. Donc voilà, on en parle moins, c'est sûr. Et encore une fois, le fait de taper, entre guillemets, de cette façon-là, militairement, sur la... sur les populations civiles, et les empêcher de se chauffer, ce sont des crimes de guerre.
Voilà, tout à fait. Et sur cet article que j'ai regardé vite fait, donc ce sont des personnes qui font partie d'Amnesty à Kiev, qui en plus donnent leur témoignage en ligne directe, et effectivement des enfants qui vont pas à l'école, qu'on voit emmitouflés avec je ne sais combien de couvertures. Et une personne disait, mais on n'a pas pu dormir de la nuit, parce que les Russes en plus envoient les drones un par un. Donc les alarmes, elles sont tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a en plus vraiment une volonté de fatiguer les gens.
Ouais, c'est créer la frayeur, c'est la du harcèlement.
Et puis voilà, et puis de se dire que...
C'est créer la terreur.
Et qu'on ne peut pas travailler quand on n'a pas de chaleur, qu'on ne peut pas se faire à manger, qu'en plus, quand l'électricité revient, c'est très peu, et le chauffage ne se met pas en route parce qu'ils ont tout pilonné au niveau du chauffage, et que bon, il y a encore des tentes où là, il y a un peu de chaleur, et les gens disent, ben, on va passer une heure ou deux là pour essayer de continuer à vivre.
C'est la guerre. La guerre, c'est ce qu'il y a de pire. De tout ça.
Mais c'est la guerre pour les civils.
Et oui, c'est la guerre pour les civils, voilà. Bien sûr.
C'est ça.
On va bouleverser le conducteur de l'émission.
Mais non, on va continuer notre émission,
Didier. On va passer la deuxième pause musicale. On
s'en voilà.
Bon, est-ce que je fais...
برای توی کوچه رسیدم، برای ترسیدم به وقت بوسیدم، برای خواهرم خواهرت خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبالگر و آرزوش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگ‌های بی‌گناه ممنوعه، برای گریه‌های بی‌وقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره‌ای که می‌خنده، برای دانش آموز و برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نامه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه، برای غیر تکراری، برای این همه شون آی تو هاری، برای آوار میله های پوشانی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای خالص های اعصاب و بیخوابی، برای مرد میخن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود،
برای زن زندگی
برای آزادی،
de retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International, pour la dernière partie de son émission bimensuelle. Et on vient d'entendre une chanson qu'on vous avait déjà passée, mais ça remonte à il y a plusieurs mois, qui est en hommage au mouvement Femmes, Vie, Liberté. Encore, on parlait de l'Ukraine, donc qui fait loin la une de l'actualité. Bah, l'Iran, c'est aussi en train
c'est pareil, voilà,
de passer aux oubliettes. Hein.
Bah, il y a des deals. Avec Trump, il fait des deals avec donc il va peut-être oublier de défendre les Iraniens.
Et alors, c'est une chanson en persan qui est un hommage au mouvement Femmes, Vie, Liberté d'il y a quelques années aussi de protestation, avec de nombreuses victimes tuées par les milices locales, là aussi. Clarisse, tu voulais nous parler... Alors de la Grèce.
Voilà, c'est un article qui est dans la chronique d'Amnesty et qui s'appelle « Réparer les vivantes ». Donc ça va vous parler de femmes. Et donc Claude Jonkmas enseigne l'autodéfense à des femmes migrantes sur les îles de Kos et de Lesbos, donc des îles grecques. Ces ateliers révèlent une vérité dérangeante. Arrivées en Europe, elle continue de vivre dans l'insécurité jusque dans les camps d'accueil censés offrir un refuge. Alors, Claude Joncas, donc, un matin, elle abandonne tout pour enseigner le fitness à celles et ceux qui n'ont plus rien. Les migrants rescapés des traversées, bloqués sur les îles grecques, sur les côtes grecques. Elle veut leur apprendre à se détendre, à retrouver un peu de calme. Mais très vite, elle découvre la peur, la honte, les corps meurtris des femmes violées sur la route de l'exil. Alors, elle se promet de leur renseigner autre chose que le fitness, la force de se défendre. Elle embarque sur le ferry pour Kos. Et sur cette île grecque, des milliers de migrants arrivés par la mer vivent dans un camp semi-fermé, financé par l'Union européenne. En Europe, souligne-t-elle, nous connaissons toutes une amie agressée et souvent à l'adolescence. Mais ces femmes-là, elles n'ont ni les mots, ni les outils pour fuir, se défendre ou comprendre ce qu'elles ont subi. Alors, je ne vais pas vous lire tout l'article, hein. je vous lis quand même quelques passages qui me semblent importants. Donc, Kos, c'est 37 000 habitants, 295 mètres carrés, des rues blanches bordées de palmiers avec des parfums de jasmin et des boutiques pour les touristes. Et à l'intérieur de cette île paradisiaque, et ben derrière des grilles et des barbelés, des conteneurs blancs s'alignent à perte de vue et ce sont les camps à accès contrôlé pour les migrants et une vie sous contrôle. Le règlement n'autorise les sorties qu'entre 8h et 20h et le traitement des demandes d'asile dure des mois. Depuis une loi grecque de septembre 2025 durcissant la politique migratoire, les demandeurs d'asile déboutés qui restent sur le territoire risquent de 2 à 5 ans de prison et jusqu'à 10 000 euros d'amende. Les femmes des camps manquent de tout, savon, shampoing, confie Sarah Ayungi, la chef de projet de l'ONG. Alors sur les murs, des panneaux indiquent en plusieurs langues dans le local de l'ONG « Vous êtes ici dans un lieu sûr ». Sarah commente, ces derniers mois sur l'île, on voit arriver de plus en plus de femmes seules avec enfants, afghanes, palestiniennes, surtout. C'est nouveau. Selon l'ONU, les femmes représentent désormais plus de la moitié des personnes migrantes dans le monde. L'époque se durcit, m'explique Sarah Ayouni, tant pour les exilés que pour ceux qui les aident. Les États-Unis ont coupé leur financement, la Grèce empile les lois restrictives, une quinzaine d'ONG ont déjà fermé. Claude renchérit. Depuis quelques mois, les organisations encore actives comme Global Roots n'ont plus le droit d'entrer dans les camps. Alors les associations se replient à l'extérieur, parfois à plusieurs kilomètres. Pour suivre le self-control, le self-défense, les femmes doivent payer 5 euros l'aller-retour en bus, souvent trop cher pour une personne migrante dans le camp de Kos, qui pouvait recevoir jusqu'à 75 euros mensuels et aucun soutien financier institutionnel n'est plus versé depuis 2025. Alors, réapprendre à se tenir debout. Donc, une autre île, Lesbos, 83 755 habitants, 1633 km², sous un soleil de plomb. Claude rejoint la maisonnette colorée de l'ONG grecque SAO, Association Hellas, en plein centre-ville. Ici, au centre Bachira, se retrouvent des femmes migrantes venues de toute l'île. Elles ont de 21 à 45 ans, originaires de Palestine, de Sierra Leone, de Gambie, de Guinée, d'Iran, de Syrie. Certaines sont arrivées il y a peu, d'autres résident dans le camp depuis 9 mois. Claude les rassure. Ici, c'est un espace sûr. Ce qui se dit ici ne sortira pas d'ici. Chacune a le droit de penser différemment. Les rires se dissipent. Claude invite les femmes à dire ce qu'elles ressentent. Les regards fuient. Les mots tombent à voix basse. Stressée, tendue, heureuse d'être là, mais fatiguée. Et puis, elle se rend compte aussi que, petit à petit, la peur s'est installée et que les femmes n'arrivent pas à parler tellement elles sont stressées par ce qu'elles ont vécu. Alors, elle colle 5 papiers colorés sur le tableau. Penser, crier, fuir, se détendre, en parler. Et puis elle tend un bloc de mousse à Amina, 21 ans, bonnet à motifs colorés. Elle ferme le poing et tape. Jenna interrompt sa tétée pour frapper à son tour. Claude distribue des planchettes de bois. Écrivez dessus ce dont vous voulez vous libérer. Puis on va les casser. Les stylos s'activent. Jenna trace quelques lettres. La peur. Les autres inscrivent « ne pas être en paix ». La violence, la dépression, la tristesse, trop penser, le stress, mes pensées négatives. Les planchettes volent en éclats. Le bruit emplit la petite pièce. À la fin du cours, Jenna sourit, plus sûre d'elle. Maintenant, je saurai quoi faire s'il y a un tremblement de terre. Pourquoi ? Parce que j'ai appris à gérer ma peur. Mais en quittant la salle, les regards des participantes glissent, fuyant, comme à leur arrivée. Aujourd'hui, je veux bien être porte-parole discrète des femmes réfugiées. Et déjà, il faut comprendre que le danger commence sur la route. L'ONU estime que 9 femmes sur 10 subissent des violences sexuelles pendant leur exil. Mais, explique Avidesh, l'insécurité continue jusque dans les camps européens. Les témoignages recueillis auprès des demandeuses d'asile syriennes et afghanes à Lesbos décrivent un camp écrasé par la chaleur ou rongé par l'humidité. Dangereux pour la sécurité des femmes et des enfants. Avidé, elle, insiste sur l'insécurité physique. « J'ai vu des agressions, du harcèlement, des attouchements et des viols, dit-elle, en écrasant sa cigarette. » À Moria, l'ancien camp surpeuplé de Lesbos, détruit par un incendie en 2020, il existait encore des sections séparées, A, B, C, pour les femmes seules, les mères et les enfants. Aujourd'hui, dans le nouveau, il n'y a plus rien, aucune zone protégée. Les cadenas des douches et des toilettes ne marchent pas. Quand on est seul, on n'a nulle part où se sentir en sécurité. Et si on est agressé, l'agresseur reste dans le camp. Parce que si on le dénonce, on a peur de tout perdre. Beaucoup de femmes n'ont pas encore obtenu le statut de réfugié. Elles craignent de porter plainte, que porter plainte fasse échouer leur demande d'asile. Leïla Aïchini, juriste pour l'ONG grecque Legal Center Lesbos, confirme le constat d'Avidé. Elle reçoit régulièrement des récits de femmes qui ne se sentent pas protégées dans le camp. Porter plainte contre un agresseur peut retarder l'obtention du statut de réfugié. Les procédures judiciaires s'ajoutent au dossier et le compliquent. Le soir venu, sur le port de Mytilène à Lesbos, Claude s'assied face à la statue de la liberté. Le soleil descend lentement. Derrière elle, les barbelés verrouillent l'entrée du quai. Regarde cette statue tournée vers l'horizon. Ces femmes arrivent ici en cherchant la liberté. Mais ici, la liberté dépend d'un passeport. Voilà. Donc, moi, je trouvais que c'était un bel article. C'est un beau témoignage. Et c'est aussi une des réalités de l'exil de ces femmes qui viennent d'Afrique, mais qui peuvent venir aussi de Syrie, d'Iran, du Pakistan, d'Afghanistan. Et sur leur route, elles sont victimes de violences. Elles sont
vraiment dans l'insécurité. Voilà, ouais. Tout le temps. Comment peut-on vivre avec ce sentiment ?
Et de Gaza, tu disais, effectivement, on comprend pourquoi. Hein. Voilà. Et donc, oui, effectivement, c'est un très bel article. Encore une fois, abonnez-vous à la chronique. Ça vient de la chronique sur le site d'Amnesty France. Vous avez l'abonnement à la chronique, un journal très, très bien fait.
Et c'était des paroles de femmes, et c'est un petit lien pour notre action qui aura lieu le 8 mars.
C'est ça. Donc, le 8 mars, alors c'est pas une voix de femme qui va vous le dire. On y reviendra lors de la prochaine émission.
Mais on le dit déjà, c'est important.
On te laisse la parole, vas-y.
Le 8 mars, on sera présent avec l'invitation de l'association Nous Toutes 27 sur une zone d'occupation féminine. Le 8 mars, c'est la journée internationale pour les droits des femmes. Et donc, il y aura pas mal d'activités. Nous, on y sera. Il y aura pas mal d'activités. On n'a pas encore tout le détail. Mais enfin,
retenez la date.
Lectures, entre autres. On fera signer des pétitions. On mettra
animer un atelier de lecture.
C'est
un dimanche et ça se passe devant la médiathèque sur le square Georges Brassens, juste en face de l'hôtel de ville, ici à Évreux.
Et si vous voulez participer avec de belles lectures sur les droits des femmes ou des textes sur les femmes, vous pouvez venir avec vos textes parce qu'on fera des lectures à voix haute et vous êtes les bienvenus et les bienvenus.
C'est ça. On vous rappelle notre mail pour nous contacter, c'est evreux@amnestyfrance.fr. Je crois que ça avait aussi une info locale
sur le cinéma. Voilà, dans la fameuse chronique dont on vient de parler, il y a un film qui est soutenu par Amnesty. Moi, j'en avais entendu parler par ailleurs. C'est un documentaire, on va dire plus. Ça s'appelle Soulèvement, qui est fait par Thomas Lacoste. Il sort au cinéma demain, le 11 février. Donc c'est un film qui parle, c'est un portrait choral à 16 voix, 16 trajectoires singulières d'un mouvement de résistance intergénérationnelle porté par une jeunesse qui vit et qui lutte contre l'accaparement des terres, de l'eau, des ravages industriels, la montée des totalitarismes et fait face à la répression politique. Les soulèvements de la terre, ça vous dit quelque chose. Donc ce film-là, pour l'instant, il n'est pas sur Evreux. J'ai regardé, mais les gens qui ont envie d'aller le voir assez rapidement, ils passent le vendredi 20 au cinéma Les Arcades à Val-de-Reuil. Donc c'est encore un cinéma associatif, j'y suis allée il n'y a pas très longtemps, les places n'y sont pas chères. Et là on peut voir des films, je vais dire, qui auront peut-être une durée de vie difficile sur Évreux. Et donc moi je vous conseille tous d'aller le voir, il est soutenu par Amnesty. On soutient le cinéma associatif de Val-de-Reuil et on profite. Donc je vous répète, le 20, vendredi 20 à 20h à Val-de-Reuil. Et Val-de-Reuil, ça fait, une demi-heure d'Évreux. Maximum,
oui, un peu moins. Oui,
enfin, mais il faut faire attention parce qu'il y a des contrôles et des amendes.
Il y a des contrôles.
Bon, ça sent le vécu, ça. Mais bon, ça, c'est pour Claire-Lise.
D'ailleurs, sans vouloir faire de publicité, parce qu'un principe actif ne fait pas de publicité, mais souvent la programmation du cinéma Les Arcades à Val-de-Reuil est très intéressante.
Voilà, il est ARS, c'est un cinéma ARS.
C'est ça. Ça vaut le coup d'acheter un coup d'œil sur leur site, sur Internet.
Tout à fait.
Voilà, mais bon, dehors de. Tu nous rappelles le titre du film ?
Alors, Soulèvement, donc c'est pour ça, voilà. Et moi, j'ai entendu un interview du réalisateur, ça m'a l'air tout à fait intéressant.
Alors, on a une autre actualité qui est beaucoup plus proche, c'est vendredi prochain, qui est le vendredi 13, c'est ça ?
Et oui, c'est un vendredi 13. Et on va avoir le plaisir de se rassembler.
C'est ça.
On va être devant la poste, oui, place Mendel.
Place Armand Mendel à 18h30.
Où il y a le penseur, le monsieur qui toujours qui rebouge pas là-bas.
C'est ça. Et c'est un rassemblement. Alors, c'est pas nous qui sommes.
Nous, on fait de l'information. Voilà. Nous, on vous donne l'information.
C'est un rassemblement qui est à l'initiative du Parti communiste d'Évreux. Alors bon, nous, on ne sera pas identifiés en tant qu'Amnesty parce que notre neutralité fait.
On fait la formation pour tout le monde, Didier.
Voilà, on ne peut pas s'afficher en tant qu'Amnesty quand c'est une organisation politique qui est à la tête de ce genre de manifestation. Mais on soutient l'idée et effectivement, c'est un rassemblement contre la venue d'Éric Zemmour à Évreux.
J'ai reçu l'affiche là pendant l'émission. Citoyens et citoyennes, luttons contre le fascisme et l'extrême droite. Refusons les idées d'Éric Zemmour le 13 février 2026 à 18h30. Et donc, c'est à l'appel du PCF, mais aussi de FSU, CGT, la Ligue des droits de l'homme, l'association France-Palestine, le CFED Asti d'Évreux, l'APRÉ, les radicaux de gauche, la France insoumise, les écologistes et NPA. Voilà, ça c'est les organismes signataires et il y a beaucoup de personnes qui ont dit qu'elles iraient au niveau individuel, dont effectivement nous, membres d'Amnesty.
Tout à fait. Et donc, alors juste parce qu'on en discutait un tout petit peu avant l'émission, pour clarifier bien les choses, effectivement manifester contre la venue de quelqu'un et ses prises de parole, ce n'est pas du tout... Au contraire, à la liberté d'expression. On rappelle qu'Éric Zemmour a été condamné plusieurs fois de façon définitive pour incitation à la haine raciale. Inciter à la haine raciale, c'est un délit. Et que donc, effectivement, s'opposer à quelqu'un qui commet des délits par la parole et par ses prises de position, ça n'a rien à voir avec le fait de s'opposer à la liberté d'expression. La liberté d'expression, effectivement, n'autorise pas à tout dire. Il y a des saloperies qu'on n'a pas le droit de dire. Et c'est tout à fait compréhensible.
Non, c'est pas des gros mots, c'est un mot vrai.
Donc voilà. Et sinon, on se retrouve sur l'antenne de Principe Actif, je l'avais noté, le mardi 24 février, à 19h, en direct sur l'antenne de Principe Actif. On va laisser la place au laboratoire et on vous dit à très bientôt. Vous dites pas au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Non, mais je veux l'affiche, je veux le voir.
C'est parce qu'elle était en train de me faire des signes, elle voulait voir ce que j'avais reçu sur mon téléphone pendant l'émission.
Voilà.
Vous vouliez pas saluer les auditeurs ?
Mais si, bonsoir tout le monde.
Allez, bonsoir, à bientôt.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.
sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.